Ce matin, j'aimerais s'y parler de la soif spirituelle. On peut passer plusieurs jours, même semaines, sans manger, sans en mourir. Mais on sait que sans boire, quelques jours, le corps ne peut pas ainsi tenir. Personnellement, si je n'ai pas assez bu avant une prédication et si je commence à avoir soif, je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, mais j'ai comme mon cerveau qui s'embrouille et mes mots, je ne suis pas du tout un grand orateur déjà, mais alors là, c'est la catastrophe. Je m'embrouille dans les mots, les syllabes s'en mêlent. Phénomène ainsi qui est inexplicable. Mais il y a cette nécessité même de boire naturellement avant qu'on ait soif. Il est reconnu que lorsque le sentiment de soif se fait sentir, on est déjà déshydraté. Enfin, je lisais que des conseils pour les cyclistes amateurs qui veulent s'inscrire à une compétition. Ils s'entraînent toute l'année. Vous voyez, pas vous, hein, ce matin vous êtes là, mais quand on vient au culte, il y en a qui se lèvent tôt des fois. On les voit avec leur vélo comme ça à 6h, 7h du matin, en train de pédaler. Et ils s'entraînent toute l'année pour un événement, une grande course. Et leur entraînement ainsi est spécifique. Et ils savent qu'ils sont bien entraînés et que la distance et le temps nécessaire à parcourir cette distance, ils en sont capables. Et je disais que la plus grande erreur se trouve, souvent, c'est qu'ils oublient de boire. Alors, ils s'hydratent quand ils s'entraînent. Mais le jour de la compétition, c'est autre chose, comme le jour d'un examen. On perd 25% de nos moyens, on est là. Et même si on connaît notre leçon, on s'en retrouve comme ça, des fois, les idées toutes... mélangés, ben là les cyclistes amateurs, ils sont tellement concentrés, ils sont là sur la course, sur la compétition, que l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne s'hydratent pas régulièrement. Et ils arrivent aux trois quarts de la course, à un moment où pouf, ils n'ont plus de jambes. Pourtant, à l'entraînement, ils faisaient beaucoup plus de distance. Ils s'étaient bien préparés, ils sont bien reposés, plus de jambes. Parce qu'ils ont attendu d'avoir soif avant de boire. La vie chrétienne, dans la Bible, est comparée à une course. Et nous est dit de nous y comparer afin de nous entraîner d'une manière ainsi semblable à ceux qui s'entraînent pour une compétition. Et de courir afin de remporter la course. Mais il ne faut pas nous oublier de nous hydrater et réhydrater avant que l'on ressente la soif. C'est quelque chose qui doit être systématique. On va lire ainsi ensemble dans un premier verset, on va lire dans Jean chapitre 7 au verset 39, où Jésus... ainsi fait cet appel, il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. On n'a pas besoin d'attendre que le magasin s'ouvre, que la fourniture vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ésaïe 55, au verset 1er, nous dit, « Vous tous, qui avait soif, je passais les versets, je crois que j'ai oublié, peut-être celui-là, j'ai sauté. Ésaïe 55, verset 1er, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Pour lancer cette invitation, il faut vraiment que Dieu... et en réserve tout ce dont il nous faut. Et il n'a pas peur qu'on vienne en nombre, d'un coup, le dimanche, pour réclamer sa présence, pour réclamer son eau vive, et il n'a pas peur que chaque jour, à chaque instant, on vienne pour s'abreuver. Il a de quoi, la Bible nous assure, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et ainsi, cet appel, dans l'Ancien Testament, on voit peu... avoir comme reflet cette parole de Jésus que nous avons lue. Ainsi, venez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Et j'aimerais ce matin simplement qu'on puisse poser cette question, est-ce que j'ai cet automatisme de boire à la source d'eau vive? Est-ce que peut-être je suis dans un état un peu léthargique? Est-ce que c'est, je suis comme ce cycliste qui a les jambes coupées, alors que je me suis préparé, alors que je me sentais capable, mais par imprudence, par excès de confiance, par manque d'humilité, manque de piété, basé peut-être sur mon expérience. J'ai cru que ça allait pouvoir passer, que j'allais pouvoir arriver quand même. Je me suis assez entraîné. Je suis un chrétien de longue date. Et j'ai omis de m'abreuver régulièrement, avant même d'avoir soif, à cette source d'eau vive. Dans Jérémie chapitre 2 au verset 13, il nous est dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ils m'ont abandonné. Mais ils se sont infligés une double peine. Et ils se sont creusés des cisternes. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé un système pour tenir bon, pour ne pas mourir de soif. Mais une citerne, elle retient l'eau, l'eau ainsi stagne. Et en plus, cette citerne crevassée, elle, elle ne retenait même pas l'eau. Elle fuyait. Il dit, mais quelle confiance! Pourquoi ont-ils choisi cela? Ça dépasse même toute intelligence, toute sagesse. Et c'est bien pour cela que la Bible nous assure qu'on a besoin de laisser l'eau divine nettoyer notre intelligence, renouveler notre intelligence. Parce qu'il y a bien des décisions que l'on prend qui montrent notre manque d'intelligence, de sagesse. Salomon, avant de construire le temple, lorsqu'il a été dans cette disposition favorable vis-à-vis de Dieu, a pris conscience qu'il avait besoin de toute la sagesse de Dieu. Jacques, l'épître de Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, mais qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous. Qu'il donne à tous, il n'y a pas de problème. Il veut la donner. Il ne donne pas à certains. Ce n'est pas les pasteurs, les anciens qui sont simplement détenteurs de la sagesse divine. On est d'accord. On est des chrétiens comme les autres. Et c'est chacun qui doit recevoir cette sagesse et qui doit avancer et surtout savoir qu'il en a besoin. Et Salomon, dans la première partie de son ministère, a bien sûr dit, mais qui suis-je, moi, pour construire un temple à l'Éternel? Il est si grand même. Peut-il habiter dans une maison faite de main d'homme? Il avait conscience de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Il avait conscience, lui, de sa faiblesse et de son besoin de recevoir d'en haut toute la sagesse divine. Mais il savait que Dieu donnait et il lui a demandé et que c'était ce dont il avait pleinement besoin. Jésus, face à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 13, lui dit, quiconque boit de cette eau, cette femme qui venait puiser aura encore soif. Il y a une eau, il y a même une pratique spirituelle ou religieuse qui nous amène à sans cesse puiser. Il y a des chrétiens qui viennent le dimanche pour boire. Mais cette manière de vivre notre foi chrétienne n'est pas conforme à la définition de Jésus-Christ, parce que lui dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Lui veut placer la source directement dans notre cœur. Amen. Et finalement, le dimanche, ce n'est pas le pasteur qui doit venir nous abreuver. C'est nous qui devons ainsi faire jaillir l'eau du fond de notre cœur. Vous êtes d'accord? C'est ce que Jésus a dit. Et c'est nous qui faisons le culte ensemble. C'est l'Église, l'union des croyants. C'est dans cette démarche, je viens rendre gloire à Dieu. Et je viens laisser jaillir toute ma louange. Et pas prendre le tuyau d'arrosage ou l'arrosoir pour, après une semaine où la terre est bien sèche comme cela, enfin, que la plante, elle se relève un petit peu. Si on va dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19, Élisée, ainsi avec le peuple autour de lui, a été confronté à un problème. Il disait, mais le séjour de la ville est bon, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il y a malheureusement aussi la possibilité d'aller boire de l'eau empoisonnée. C'est pas évident de reconnaître une source d'eau pure d'une source empoisonnée. Maintenant, cet été, on se baladait à la montagne et je vois une famille qui testait, j'imagine, un petit appareil. C'est comme une grosse paille comme cela qui on met dans de l'eau et il y a un filtre. Et en aspirant, ça filtre l'eau, soi-disant, il faut avoir confiance, juste dans une grosse paille, un petit tube comme cela. On aspire directement dans la rivière et l'eau, ainsi impropre à la consommation, est filtrée en direct. Et on peut boire comme cela, c'est pour les grands explorateurs. Il faut bien avoir confiance. Parce qu'on sait que quand on a soif, on est tenté. On est tenté par de l'eau. Et on est tenté de réduire ainsi la prudence nécessaire avant de boire ainsi de l'eau. Alors le problème ainsi est posé, et Jésus lui l'a résolu. Il a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus a résolu le problème de la soif spirituelle. Et si ce matin, on a cette soif, il faut avoir cette soif, on sait comment s'abreuver. Jésus dira dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il nous donne ainsi en abondance. Alors, il faut savoir recevoir ce que Jésus a accompli et voir toute cette direction. On va ainsi lire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, au verset 1er, du prophète Ézéchiel. Le nom Ézéchiel signifie « Dieu fortifie ». Et on a besoin de savoir et de voir combien Dieu fortifie. Nous lisons « Il me ramena » et c'est la vision ainsi de l'eau qui sort du temple vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient car la face de la maison était à l'Orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi. On lit jusqu'au verset 12. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000. 1, 2. Non, c'est bon, ça c'est là-bas. Bon. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, j'avais de l'eau. Nous, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Voilà. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et rentrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses, combien ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et enfin, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Des fois, il faut avoir une vision un peu plus éloignée que celle simplement de notre bout du nez. Il faut être rendu capable de voir un peu plus loin. Paul priait afin que les Éphésiens aient les yeux de leur cœur illuminés, afin de pouvoir considérer l'espérance qui s'attache à l'appel divin, toute la gloire qui s'attache à l'appel de Dieu. Il faut être guidé pour croire. Il faut surtout avoir cette vision spirituelle. Et cette soif spirituelle nous conduit à vouloir avoir les yeux de notre cœur illuminés. Connaissez ce récit d'Élisée, son serviteur, lorsqu'ils étaient ainsi assiégés par le roi de Syrie, parce que Dieu révélait à Élisée même ce qui se passait dans la chambre, ce qui se disait dans la chambre à coucher du roi de Syrie. Et le roi croyait qu'il y avait un espion. On lui a dit non, c'est l'homme de Dieu. Alors ils sont allés pour l'assiéger, et le matin, le serviteur se leva, le serviteur d'Élisée, il a vu toute l'armée du roi de Syrie, il a dit « Mais nous sommes perdus, c'est fini, c'est la fin !» Élisée dit « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et il pria afin que Dieu lui ouvre les yeux, et il vit ainsi toute l'armée de l'Éternel qui était là. Puis, prière étonnante, Élisée pria afin que les ennemis soient frappés d'aveuglement. C'est l'inverse, la Bible nous dit que c'est le Dieu de ce siècle qui frappe d'aveuglement nos concitoyens, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile. Mais lorsqu'il y a des attaques, l'Éternel, capable de renverser, il change mal en bien, et ils ont été frappés d'aveuglement, oh pas en leur souhaitant du mal, mais parce que lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, mais où est notre direction? Ils ont dit, mais ils sont partis de ce côté, vous êtes trompés de ville, suivez-moi, je vais vous guider. Et il les a ainsi amené vers le roi d'Israël, qui lui a dit, c'est bon. Il dit, non, ne le faites point de mal, laissez-les aller. La grâce. Voilà, lorsque on boit, la vision que l'on peut avoir, les angoisses, la crainte du moment, elle disparaît. Parce que toutes ces inquiétudes, je vous l'ai dit, elles sont attachées à des choses terrestres. Si on regarde réellement nos inquiétudes, quelques secondes, réfléchissons, ce qui nous empêche de dormir, d'être tranquille, d'être apaisé. C'est rarement des choses spirituelles, c'est pas vrai? Et c'est la base de la foi, mais on y est tous. Jésus qui dit, mais à quoi cela vous sert-il de vous inquiéter? Est-ce que quelqu'un peut rajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là, Ézéchiel a été conduit à voir ce que Dieu allait accomplir. Son projet, la vision lui a été rendue. Mais il a fallu pour cela qu'il suive un petit parcours. Déjà qu'il voit d'où venait cette eau. Et cette eau, elle sortait ainsi de l'autel. Avant d'être un torrent impétueux, la source d'eau, c'est un petit filet. Et quand on va et on voit une source, j'aime beaucoup moi aller à l'origine d'une source, c'est un petit filet d'eau qui coule d'une petite montagne, et puis d'autres filets la rejoignent, ça commence à faire un petit torrent qui grossit, et après on voit un fleuve, et quelle puissance! Et ça a coulé à partir de l'autel, c'est la croix. Tout est à l'origine, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, un soldat versa ainsi le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang, mais aussi de l'eau. Quel symbole! Il est lui la source d'eau vive. Il fallait que cela se passe et que l'on s'en souvienne. Et cette eau passait sous le seuil de la maison et pour s'écouler vers la vallée. Alors il y a tout un message. On peut voir là l'eau qui a coulé depuis l'effusion du Saint-Esprit, laissant va à la Pentecôte et toute l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans tant de pays, on voit que le fleuve d'eau grandit même dans notre pays. On en veut beaucoup plus, mais les statistiques sont là. Il n'y a jamais eu autant de croyants authentiques qu'aujourd'hui, même dans notre pays de France. Mais il faut que ce petit torrent vienne là, un grand fleuve. Amen. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves couleront de son sein. Il dit que Jésus dit cela de l'Esprit, qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et l'effusion du Saint-Esprit est toujours pour nous. Et des saints qui étaient à la Pentecôte, aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de chrétiens qui croient en l'effusion du Saint-Esprit, la nécessité pour remporter ainsi des victoires et amener des âmes à Jésus-Christ. Mais nous, personnellement, c'est une marche. On voit cette effusion, on a connaissance, on a reçu la révélation de Jésus mort à la croix pour le pardon de nos péchés et qui est le seul message qui puisse amener au salut. Mais aujourd'hui, quelle part j'y prends? Mais comme Ézéchiel, laissons-nous conduire. Regardons ce torrent. Même ces petits commencements, ne les méprisons pas. Marchons sur le côté et traversons. Laissons-nous remplir, visiter à plusieurs reprises. Mais on remarque que finalement, par quatre fois, il a marché 1000 coudées. Ça fait à peu près un coude, ça fait 50 cm. Et donc, 1000 coudées, on divise par deux. C'est bon, en mathématiques, vous suivez? 1000 divisé par deux, ça fait 500 mètres. D'ailleurs, à chaque fois, 500 mètres. 4 fois 500, 2000. Ça fait à peu près 2 km qu'il a marché. C'est pas énorme. Et on voit que ces 2000 km, finalement, par rapport au plan de Dieu, il est resté dans le cadre du sanctuaire. Et donc, la vision qu'il avait, c'était ce que Dieu allait accomplir. Et lui, il était encore là. Alors, ne méprisons pas les petits commencements, même à l'intérieur là, de l'Église, cette effusion. Parce que c'est là où Dieu va nous révéler ce qu'il veut encore accomplir. Et c'est merveilleux, il a de grands projets. Et la vision doit nous être rendue, éclairée. Les yeux de notre cœur doivent être illuminés, parce que ce n'est pas entre nous, hein, ce n'est pas mon frère et ma soeur que je dois regarder. Jésus l'a dit, hein, si celui qui voit une paille dans l'œil de son frère, pratiquement, s'il s'attache à cette paille, je traduis comme cela, hein, c'est presque forcément que lui a une poutre dans la sienne. C'est presque systématique. Ça se remarque, hein? C'est pas vrai? Celui qui va chercher les pailles dans l'œil, systématiquement, il en a une poutre dans la sienne. Et même si on ne la voit pas, un jour, elle apparaît. Donc, c'est vraiment pas dans cette direction qu'il faut regarder. Mais viser les âmes qui sont à gagner, ce fleuve ainsi. Mais pour cela, on doit marcher. Alors, il a marché 500 mètres, il a traversé, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est le petit commencement, vous savez, comme quand on va à la mer, on goûte, est-ce que l'eau est... Mais la Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds, ceux qui annoncent l'Évangile. Il dit, mettez à vos pieds les chaussures. Du zèle de l'Évangile de Paix. Il faut un commencement et vouloir ce salut des âmes. Ça, c'est le début à tout. Il faut vouloir aller. Et là, je sais que jusqu'aux extrémités de la terre, Istres, serait-ce que par des calculs financiers, ils veulent y aller. Et ils veulent être impliqués. Une église missionnaire. Amen. Mais il continue à marcher, il retraverse. Et il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et là, les genoux, c'est quand on se met à genoux, c'est le symbole de la prière, de la consécration. Mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut savoir où on veut aller, il faut chausser nos chaussures, mais il faut vraiment pas oublier notre piété personnelle, la prière, se mettre à genoux, parler à Dieu. C'est une étape, vous savez, quand le chrétien, ils sont vers Dieu, ben c'est on doit apprendre à prier. Ce n'est pas évident, même de prier à haute voix dans l'Église. Chacun, je crois, on a eu, alors pour certains plus que d'autres, en fonction de la personnalité. Mais pour beaucoup, moi en tout cas, quand je me suis converti pendant longtemps, j'avais du mal à élever la voix. C'était une victoire à prendre, même dans la communauté. Et il faut apprendre, mais à prier, avoir cette relation avec Dieu, personnelle. Il continue à marcher et il retraverse. Et là, il y avait de l'eau jusqu'aux reins. Vous savez, on voit dans le contexte biblique, il portait là ses robes, mais même les Romains, on voit les soldats, quand ils devaient être en action, ben, ils ceinturaient, et il nous est dit, ils mettaient à vos reins la ceinture de la vérité, et moi je ne sais pas, mais les dames peuvent le dire, lorsqu'elles portent une robe, on ne peut pas aller courir facilement. Et donc, on se ceignait pour pouvoir être libre et pouvoir ainsi courir, être en action, dans l'action. Et il y a un moment où on réalise qu'on ne peut pas laisser toujours les autres faire. Mais c'est à moi de m'engager, c'est à moi de servir. C'est indispensable. Ma vie doit être consacrée à Dieu. Je ne suis pas un spectateur. Je ne dois pas simplement recevoir. C'est moi qui dois donner, apporter. Je dois rentrer ainsi pleinement dans l'action et me mettre au service de Dieu. Puis il marche encore et il avance, il grandit. Dans la vie chrétienne, il retraverse et là, il y avait de l'eau jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Ainsi, lui nageait à contre-courant, c'est le courant qui l'emportait. Et on remarque que si on a de l'eau jusqu'aux chevilles, même s'il y a un courant dans le torrent, il ne peut pas faire grand-chose. On peut marcher à contre-courant de la volonté de Dieu, on peut y arriver. Quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, on sent là la force du courant et la direction. C'est-à-dire que si on marche à contre-courant, c'est qu'on le veut. On veut s'opposer à ce que à la direction que Dieu nous donne. Lorsqu'on a de l'eau jusqu'aux reins, si on marche à contre-courant, là on ne peut même pas avancer. Si le courant est fort, il commence à nous emporter, mais on peut tenir bon si on a la tête dure. Par contre, lorsqu'on se laisse totalement immerger, et lorsqu'on n'a plus pied, si le courant est fort, même si vous êtes un bon nageur, mais contre le courant d'un torrent, rien ne peut y faire. Et ça, c'est la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui a raison. On s'y soumet totalement et on le laisse nous emporter dans la bonne direction. Mais il veut encore nous montrer beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qu'il lui a montré lorsqu'il a ramené ? Il dit, as-tu vu ? Es-tu rendu capable de voir ? Vous voyez, comme cet aveugle que Jésus a amené à la fontaine de Siloé. Et il a dû se nettoyer les yeux pour voir. Et des fois, ça demande plusieurs reprises. Parce qu'un coup, l'aveugle voyait ainsi les gens comme des arbres. Savait pas, il voyait des ombres, mais pas bien clairs. Il a dû recommencer. As-tu vu ? Alors, il a vu des arbres feuillus, de toute espèce portant du fruit. Oui, de la diversité. On peut se balader des fois, même dans les assemblées de Dieu, il y a des fois de la diversité. Et tant que c'est dans le cadre de la parole de Dieu, de la sainte doctrine, mais on doit accepter, il y a des fois des couleurs un peu différentes dans le culte, des chants un peu différents comme cela. Mais on doit connaître la bonne doctrine et dire oui, ça ne doit pas forcément me perturber tant que la parole de Dieu aussi est là, de toute espèce. Mais c'est le fruit véritable. Est-ce que c'est un bon fruit ? Un bon fruit, c'est un fruit qui porte en lui la multiplication, qui peut se reproduire. Et il n'est pas transformé génétiquement et il devient stérile après. Ce n'est pas une graine qui, vous savez, qu'on donne et qui est transformée afin qu'elle pousse. Mais on ne puisse plus réutiliser la graine de la plante. Je dois pouvoir analyser le fruit. C'est au fruit qu'on reconnaît ainsi la plante et la bonne plante. Alors, il y avait des feuillages. Alors, on a une mauvaise idée du feuillage. C'est sûr que si on a une plante qui porte du fruit, qui fait que des feuilles, et dans la Bible, on est marqué par le figuier maudit qui avait que des feuilles. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste, mais un arbre qui ne porte que des fruits sans feuilles, il y a quand même un problème. Généralement, pour produire du fruit, il faut avoir des feuilles. Il faut les deux. Donc ce n'est pas les feuilles le problème, c'est le fait de ne pas porter du fruit. Et il dit que les feuilles servent d'ombrage, servent de remède. Mais l'arbre doit ainsi porter du fruit. Il est parlé de cette mer, cette grande mer qui était salée, cette mer morte, qui elle n'arrive même pas à sortir de sa condition stérile, même si le Jourdain coule dedans. Il est dit que cette mer sera régénérée. Elle deviendra stérile. Excuse-moi, fertile. De l'état stérile, elle deviendra fertile. Jusqu'à ce que les poissons, comme dans la grande mer, viendront. On pourra y pêcher. Oui, il faut avoir une vision juste. Notre monde est stérile et brûlé par le sel. Suivez, j'ai vu qu'en Camargue, suite à l'arrêt de l'exploitation ainsi des salins, ils essayent de redonner ainsi à la nature ses droits. Et tous ces salins où on avait fait rentrer de l'eau salée pour qu'on exploite ainsi le sel, maintenant ils essayent de permettre à la nature de retrouver ainsi cette espèce de ces lagunes où il y a de l'eau douce qui était là, pour que la vie reprenne. Est-ce qu'on a cette vision que notre monde stérile, même dans notre France, même si le pli il est pris tellement dramatiquement dans tant de domaines. Mais est-ce qu'on est rendu capable de croire que l'eau de la vie peut changer les choses ? Est-ce que notre vision est impactée par cette source d'eau ? Il dit des pêcheurs amenant des poissons de toute espèce. Mais il est dit qu'il y a des marées qui seront laissées ainsi au sel, des crevasses qui ne seront pas laissés nettoyer. Comme si, ben, il y a un petit espace où on garde. Mais là, ils seront abandonnés au sel. Cela, ça doit nous alerter. Parce que moi, j'ai besoin que cette eau vive puisse venir nettoyer et me purifier et me rendre vraiment fertile. Mais si je garde mon espace dans lequel Dieu n'a pas la possibilité de venir rendre vie, la Bible nous dit qu'ils seront abandonnés aussi. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation, ainsi une pleine, ainsi une volonté. Et tous ces arbres porteront du fruit en abondance. Ça, c'est la vision même pour Istres, pour notre Ouest-Provence. Amen. Il faut avoir cette vision. Ce n'est pas question d'être optimiste. On est réaliste. La situation, Dieu la connaît bien mieux que nous. On n'a pas besoin de la lui apporter. Mais c'est lui qui doit apporter notre vision. Et moi, comme je vous le dis, je le répète, je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. Même c'est changer, dire, bah oui, on a confiance, parce qu'on travaille main dans la main, oh, chacun a son programme, et il faut se consacrer à son programme. On n'est pas là pour ainsi ni diluer, ni finalement faire en sorte que le fonctionnement des églises soit perturbé. Non, mais par contre, des moments, on se rappelle, on dit, on est main dans la main, on est frères et sœurs, et puis on prie les uns pour les autres. Priez pour nous, parce qu'on a des soucis avec un entrepreneur à Saint-Laurent-de-Provence, parce qu'on fait des travaux de réhabilitation, et comme beaucoup dans la région, il paraîtrait-il, il travaille un petit peu, il vient un jour, et le reste du mois, il est ailleurs. Donc ça avance pas, on est en problématique, on a besoin de vos prières aussi, merci de prier pour nous. Que Dieu vraiment bénisse. Et je termine, la Bible nous dit qu'il faut porter du fruit, de qualité, en grande quantité, de manière pérenne. Et par la grâce de Dieu, les saisons sont avancées parce qu'il est dit qu'ils porteront du fruit sans arrêt. Amen. Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour cette église que tu as placée, Seigneur, dans cette ville d'Istres. Je te remercie, Père éternel, pour ces journées. Ouest-Provence, je te remercie pour ces programmes, Seigneur, organisés dans lesquels, Seigneur, les églises se retrouvent, pour ces projets, pour les prières les uns pour les autres, pour tout ce secteur. Nous voulons, Père, que tu puisses y apporter là ta vie en abondance. Utilise-nous, sers-toi de nous, forme-nous, Seigneur, réforme-nous, donne ta vision, illumine les yeux de notre cœur, permets-nous, Seigneur, de voir ton œuvre et de nous projeter comme tu le désires, Seigneur, afin que l'on soit rendu capable de voir ce que tu veux accomplir. Oh Père, merci encore. Bénis Seigneur Joël avec sa famille, Seigneur, dans cette église. Dis Seigneur, bénis cette église en abondance. Amen.